Chapitre 5. La Gaule sous la domination romaine. Depuis la conquête de la Gaule par César jusqu'à l'établissement des Francs en Gaule par Clovis, la Gaule resta pendant plus de 5 siècles sous la domination romaine. D'abord de l'Empire romain païen, ensuite de l'Empire romain chrétien. Dans son état primitif d'indépendance, elle avait lutté 10 ans contre les meilleures armées et le plus grand homme de Rome. Après 5 siècles de domination romaine, elle n'opposa aucune résistance à l'invasion des barbares, germains, goths, alains, bourguignons, francs, qui détruisirent pièce à pièce l'Empire romain. Cet affaissement, je pourrais dire cet anéantissement d'une population si indépendante, si active et si vaillante à son apparition dans l'histoire, c'est là, mes enfants, le fait caractéristique de cette longue époque. J'ai à cœur de vous le faire bien connaître et comprendre. La Gaule a vécu pendant ces 5 siècles sous des régimes et des maîtres très divers. Je les résume dans 5 noms qui correspondent à des gouvernements très inégaux, en mérite et en vice, en bien et en maux, pour leur époque. Premièrement, les Césars, de Jules César à Néron, de l'an 49 avant Jésus-Christ à l'an 68 après Jésus-Christ. Deuxièmement, les Flaviens, de Vespasien à Domitien, de l'an 69 à l'an 95. Troisièmement, les Antonins, de Nerva à Marc Aurèle, de l'an 96 à l'an 180. Quatrièmement, l'anarchie impériale, où les 59 empereurs et les 51 tyrans, de Commode à Carin et Numérien, de l'an 180 à l'an 284. Cinquièmement, Dioclétien, de l'an 284 à l'an 305. À travers tous ces régimes et malgré leurs très différents résultats pour leurs sujets contemporains, le fait que je viens d'indiquer comme le caractère général et définitif de cette longue époque, la décadence morale et sociale de la Gaule, comme de l'Empire romain tout entier, n'a pas cessé de persister et de se développer. En quittant la Gaule conquise pour aller devenir le maître dans Rome, César ne négligea rien pour assurer sa conquête et la faire servir à l'établissement de son empire. Il forma, de tous les pays gaulois qu'il avait soumis, une province spéciale qui reçut le nom de Gallia Comata, la Gaule chevelue, tandis que l'ancienne province romaine s'appelait Gallia Togata, Gaule à la toge. César fit entrer dans ses troupes une multitude de Gaulois, Belges, Arvernes, Aquitains, dont il avait éprouvé la bravoure. Il forma presque uniquement de Gaulois une légion spéciale dite « l'alouette » parce qu'elle portait sur ses casques une alouette aux ailes étendues, symbole de la vigilance. Il donnait en même temps, dans la Gaule chevelue, aux villes et aux familles qui se prononçaient pour lui, toutes sortes de faveurs, les droits de cité romaine, les titres d'alliés, de clients, d'amis et jusqu'au surnom de Julia, signe du plus puissant patronage romain. Il avait dans l'ancienne province romaine de redoutables ennemis, surtout la ville de Marseille qui se déclara contre lui et pour Pompée. César fit assiéger Marseille par l'un de ses lieutenants, s'en empara, se fit livrer ses vaisseaux, son trésor et il laissa une garnison de 2 légions. Il établit à Narbonne, à Arles, à Biterrae, c'est-à-dire à Béziers, 3 colonies de vétérans légionnaires dévoués à sa cause et près d'Antipolis, Antibes, une colonie maritime dite Forum Julii, aujourd'hui Fréjus, dont il voulait faire une rivale de Marseille. Il fallait beaucoup d'argent pour faire face aux dépenses d'un tel patronage et pour satisfaire les troupes anciennes et nouvelles du conquérant de la Gaule et de Rome. Il y avait à Rome un vieux trésor fondé plus de 4 siècles auparavant par le dictateur Camille lorsqu'il avait délivré Rome des Gaulois, un trésor réservé aux frais des guerres gauloises et conservé avec un religieux respect comme un argent sacré. Au milieu des discordes et des désordres de Rome, personne n'y avait touché. Revenu de la Gaule, César monta un jour au Capitole avec des soldats et, trouvant fermée, dans le temple de Saturne, la porte du lieu où le trésor gaulois était déposé, il ordonna qu'elle fût forcée. Le tribun du peuple, Métellus, s'y opposa vivement, conjurant César de ne pas attirer sur la République la peine d'un tel sacrilège. « La République n'a rien à craindre, » dit César. « Je l'ai délié de ses serments en soumettant la Gaule. Il n'y a plus de Gaulois. » Il fit enfoncer la porte et le trésor fut enlevé et distribué aux troupes gauloises et romains. Et quoi qu'en dit César, il y avait encore des Gaulois, car en même temps qu'il distribuait à ceux dont il avait fait ses soldats l'argent réservé pour les combattre, il imposait à la Gaule chevelue, sous le nom de stipendium, c'est-à-dire la solde militaire, un impôt de 40 millions de sesterces, environ 50 millions d'euros. Somme considérable pour un pays dévasté qui, selon Plutarque, ne contenait pas alors plus de 3 millions d'habitants, et presque égale à celle des impôts payés par le reste des provinces romaines. Après César, Auguste, resté seul maître du monde romain, prit en Gaule, comme partout, le rôle de pacificateur, réparateur, conservateur, organisateur, en ayant soin sous des formes modestes de rester toujours le maître. Il divisa les provinces en impériales et sénatoriales, se réservant l'entier gouvernement des premières et laissant les secondes sous l'autorité du Sénat. La Gaule chevelue, tout ce qu'avait conquis César, fut province impériale. Auguste la divisa en trois provinces, la Lyonnaise, la Belgique et l'Aquitaine. Il y reconnut 60 nations ou cités distinctes qui continuèrent à gouverner elles-mêmes leurs affaires propres, selon leurs traditions et leurs mœurs, en se conformant aux lois générales de l'Empire et sous la surveillance de gouverneurs impériaux chargés de maintenir partout, selon l'expression de Pline le Jeune, la majesté de la paix romaine. Lugudune, Lyon, jusque-là peu importante et obscure, devint la grande ville, la cité favorite, le séjour ordinaire des empereurs quand ils visitaient la Gaule. Après avoir tenu à Narbonne, l'an 27 avant Jésus-Christ, une assemblée des représentants des diverses nations gauloises, Auguste vint plusieurs fois à Lyon et y séjourna même, à ce qu'il paraît, assez longtemps sans doute pour surveiller de là et mettre en activité le nouveau régime de la Gaule. Après le départ d'Auguste, son fils adoptif Drusus, qui venait de remplir en Belgique et sur le Rhin une mission à la fois militaire et administrative, convoqua à Lyon les délégués des 60 cités gauloises pour assister à l'inauguration d'un magnifique monument élevé au confluent du Rhône et de la Saône en l'honneur de Rome et d'Auguste comme divinité tutélaire de la Gaule. Au milieu d'une vaste enceinte était placé un grand autel de marbre blanc sur lequel furent gravés les noms des 60 cités chevelues. La statue colossale des Gaules et les 60 statues des cités gauloises peuplaient l'enceinte. Deux colonnes de granit de 25 pieds de haut s'élevaient auprès de l'autel, surmontées de deux victoires colossales en marbre blanc, hautes de 10 pieds. Des fêtes solennelles, des jeux gymnastiques, des exercices oratoires et littéraires accompagnèrent l'inauguration. Et pendant la cérémonie, on apprit aux acclamations populaires qu'un fils de Drusus venait de naître à Lyon même, dans le palais de l'empereur où sa mère Antonia, fille de Marc-Antoine et d'Octavie, sœur d'Auguste, séjournait depuis quelques mois. Ce fils devait être un jour l'empereur Claude. L'activité administrative d'Auguste ne se bornait pas à des érections de monuments et à des fêtes. Il s'appliqua à développer dans la Gaule les éléments matériels de civilisation et d'ordre social. Son conseiller le plus intime et le plus habile, Agrippa, établi à Lyon comme gouverneur des Gaules, fit ouvrir 4 grandes routes partant d'une borne milière placée au milieu du Forum lyonnais et se dirigeant l'une par le centre jusqu'à Saintes et à l'océan, l'autre vers le sud jusqu'à Narbonne et les Pyrénées, la troisième vers le nord-ouest et la Manche par Amiens et Boulogne, la quatrième vers le nord-est et le Rhin. Agrippa fonda plusieurs colonies considérables, entre autres Cologne qui porta son nom. Il admit sur le territoire gaulois des bandes germaines qui demandaient à s'y établir. Grâce à la sécurité publique, des Romains devinrent propriétaires dans les provinces gauloises et y introduisirent les cultures italiennes. Les chefs gaulois, de leur côté, commencèrent à cultiver des terres devenues leur propriété personnelle. Des villes se bâtissaient ou s'agrandissaient et s'entouraient de remparts à l'abri desquels la population venait se grouper. Le plus savant et le plus exact observateur de la nature et de la société romaine, Pline l'Ancien atteste que sous Auguste, l'agriculture et l'industrie gauloise étaient en grand progrès. Mais à côté de ce travail de civilisation et d'organisation, Auguste et les agents romains poursuivaient un travail d'un effet tout contraire. Ils s'appliquaient à extirper de la Gaule l'esprit de nationalité, d'indépendance et de liberté. Ils mettaient tous leurs soins à effacer partout les souvenirs et les sentiments gaulois. Les villes gauloises perdaient leur ancien nom et recevaient des noms romains. Augusto Nemetum, Augusta, Augusto Dunum prenait la place de Gergovie, Novio Dunum de Bibracte. La religion nationale gauloise, le druidisme, était attaquée comme la patrie gauloise, dans le même dessein et par les mêmes moyens. Tantôt, Auguste interdisait ce culte aux Gaulois devenus citoyens romains, comme contraire aux croyances romaines. Tantôt, on unissait dans les mêmes temples et sur les mêmes autels, comme pour les unir dans la même indifférence, le paganisme romain et le druidisme gaulois. Les noms romains et les noms gaulois s'appliquaient à la même personnification religieuse de tel ou tel fait, de telle ou de telle idée. Mars et Camul étaient également le dieu de la guerre. Bélène et Apollon, le dieu de la lumière et de la médecine, Diane et Arduina, la déesse de la chasse. Partout, soit qu'il s'agisse de la patrie terrestre ou de la foi religieuse, l'ancien ressort moral gaulois était brisé ou condamné à se rouiller, et aucun ressort moral nouveau n'était admis à le remplacer. C'était partout l'autorité romaine et impériale qui se substituait à l'activité libre et nationale des Gaulois. Il ne faut pas croire, mes enfants, que cette hostilité du pouvoir pour les sentiments moraux et cette absence de liberté ne compromisent pas gravement les intérêts matériels de la population gauloise. Quelle que soit sa vaste organisation et son activité, l'administration publique, quand elle n'est pas surveillée et contenue par la liberté et la moralité publique, tombe bientôt dans des abus monstrueux qu'elle ignore elle-même ou qu'elle tolère sciemment. Les exemples de ce mal inhérent au despotisme abondent même sous le pouvoir intelligent et vigilant d'Auguste. Je n'en citerai qu'un. Il avait nommé procurateur, c'est-à-dire intendant des finances dans la Gaule chevelue, un Gaulois d'abord esclave puis affranchi de Jules César et qui avait pris le nom romain de Licinius. Cet homme se livra, dans son administration, aux extorsions les plus effrontées. Les impôts se percevaient par mois. Profitant du changement de nom que la flatterie avait fait subir aux deux mois de juillet et d'août, consacrés à Jules César et à Auguste, il fit son année de 14 mois afin d'en tirer 14 contributions au lieu de 12. Décembre, disait-il, est bien, comme son nom l'indique, le 10e mois de l'année. Et il y ajoutait, en l'honneur de l'empereur, deux autres mois, qu'il appelait 11e et 12e. Dans un des voyages qu'Auguste fit en Gaule, de vives plaintes s'élevèrent contre Licinius. Ses rapines furent dénoncées à l'empereur. Auguste n'osait le soutenir et semblait prêt de se décider à en faire justice. Licinius le conduisit dans le lieu où étaient déposés les trésors qu'il avait ainsi extorqués. « Seigneur, lui dit-il, voilà ce que j'ai amassé pour toi et pour le peuple romain, de peur que les Gaulois, possesseurs de tant d'or, ne s'en servissent contre vous. Je l'ai conservé pour toi et je te le remets. » Auguste prit le trésor et Licinius resta impuni. Qu'il s'agisse d'abus financiers ou d'autres actes, le pouvoir absolu ne résiste guère à de telles tentations. Vous entendrez dire, mes enfants, vous lirez un jour dans les écrits de quelques philosophes et savants modernes que le despotisme conquérant de l'Empire romain a été un progrès nécessaire et salutaire et qu'il a fait l'unité et l'affranchissement du genre humain. N'en croyez rien. Il y a du bien et du mal mêlés dans tous les événements et tous les régimes de ce monde, et le bien surgit quelquefois à côté ou à la suite du mal, mais ce n'est jamais du mal même que sort le bien. L'iniquité et la tyrannie n'ont jamais produit de bonnes conséquences. Tenez pour certain que là où elles dominent, là où le droit moral et la liberté personnelle des hommes sont opprimés par la force matérielle, barbare ou savante, il n'en résulte que des maux prolongés et de déplorables obstacles au retour du droit et de la force morale qui, grâce à Dieu, ne saurait jamais être abolie dans la nature et dans l'histoire humaine. La despotique administration impériale a maintenu longtemps l'Empire romain, non sans éclat, mais elle a corrompu, énervé, appauvri les populations romaines, et elle les a laissées, après 5 siècles, incapables de se défendre autant que de se gouverner. Tibère continua dans la Gaule, moins activement et avec moins de soin de l'administration provinciale, la politique pacifique et modérée d'Auguste. Il eut à étouffer dans la Belgique et même dans la province lyonnaise 2 insurrections suscitées par les ressentiments de l'esprit national et druidique. Il les réprima efficacement, sans vengeance violente. Il fit un voyage en Gaule, prit des mesures toujours insuffisantes pour défendre la frontière du Rhin contre les incursions sans cesse répétées des Germains, et se hâta de rentrer en Italie pour y reprendre le cours de ses méfiances, de ses perfidies et de ses cruautés contre la fierté républicaine et la dignité morale de quelques débris du Sénat romain. L'indigne fils de Germanicus, Caligula, lui succéda. Après quelques jours d'hypocrisie impériale et de crédules espérances populaires, ce fut un fou déchaîné à la place d'un tyran profond et sournois. Caligula s'occupa beaucoup de la Gaule pour la piller et donner là un libre champ à ses folies tour à tour odieuses ou ridicules. Dans une courte et vaine campagne sur les bords du Rhin, il avait fait trop peu de prisonniers germains pour suffire à la pompe d'un triomphe. Il prit des Gaulois, les plus grands qu'il put trouver, de taille triomphale, disait-il. Il leur donna des vêtements germains, les força à apprendre quelques mots teutoniques et les envoya attendre en prison, à Rome, son retour et son ovation. Lyon, où il séjourna quelque temps, fut le théâtre de ses extorsions et de ses plus étranges caprices. Il jouait un jour au dé avec quelques-uns de ses courtisans. Il perdait. Il se leva, se fit apporter le registre des taxes de la province, marqua pour la mort et la confiscation quelques-uns des plus imposés, et dit à ses compagnons, « Vous autres, vous jouez pour quelques drachmes. Moi, je viens d'un seul coup d'en gagner 150 millions. » Sur le bruit d'un complot tramé contre lui en Italie par quelques nobles romains, il fit venir et vendre à Lyon, en place publique, leurs meubles, leurs joyaux, leurs esclaves. La vente réussit. Il l'étendit au vieux mobilier de ses propres palais d'Italie. « Je veux meubler les Gaulois, » disait-il. C'est une marque d'amitié que je dois aux braves alliés du peuple romain. » Il faisait lui-même dans ses enchères le métier de vendeur et de commissaire-priseur, racontant l'origine des divers objets pour en faire monter le prix. « Ceci appartenait à Germanicus, mon père. Et voilà qui me vient d'Agrippa. Ce vase est égyptien. Il servait à Antoine. Auguste le conquit à la bataille d'Actium. » Aux ventes impériales succédèrent les jeux littéraires. Les vaincus devaient payer les frais des prix et célébrer en vers ou en prose l'éloge des vainqueurs. Si leur composition était jugée mauvaise, ils étaient tenus de les effacer avec une éponge ou même avec leur langue, à moins qu'ils n'aimassent mieux recevoir des coups de férule ou être plongés dans le Rhône. Un jour que Caligula, déguisé en Jupiter, siégeait sur son tribunal et rendait des oracles au milieu de la place publique, un homme du peuple restait immobile devant lui et arrêtait sur lui des regards ébahis. « Qu'est-ce que je te parais ?» lui demanda l'empereur, flatté sans doute de cette attention populaire. « Tu me parais une grande extravagance, » lui dit le Gaulois. Ce fut là, au bout d'à peu près 4 ans, le cri universel, et contre l'empereur fou, le monde romain n'avait alors d'autre ressource que l'assassinat. Le capitaine des gardes de Caligula en délivra Rome et les provinces. Je ne rencontre pendant tout son séjour en Gaule qu'un acte sensé et utile. Il fit construire un phare pour éclairer le passage entre la Gaule et la Grande-Bretagne. On en a, dit-on, retrouvé quelques traces. Vous savez déjà, mes enfants, que son successeur Claude, frère du grand Germanicus et mari de sa propre nièce, la seconde Agrippine, était né à Lyon au moment même où son père Drusus y célébrait l'érection de l'autel d'Auguste. Pendant tout son règne, il témoigna à sa ville natale la bienveillance la plus active, et le but constant comme le principal résultat de cette bienveillance fut de rendre la ville de Lyon de plus en plus romaine, en y effaçant tous les caractères et tous les souvenirs gaulois. Elle fut dotée des droits, des monuments et des noms romains les plus importants ou les plus fastueux. Elle devint la colonie par excellence, la grande ville municipale des Gaules, la ville claudienne. Mais elle perdit ce qui lui restait de son ancien régime municipal, c'est-à-dire de son indépendance administrative et commerciale. Elle ne fut pas seule dans la Gaule à éprouver la bienveillance de Claude. Cet empereur méprisé depuis son enfance, que sa mère Antonia appelait « une ombre d'homme, point achevée et seulement ébauchée par la nature », et de qui son grand-oncle Auguste disait « nous flotterons toujours, incertain de savoir s'il est ou non capable des charges publiques ». Claude, le plus faible, en effet, des Césars, de corps, d'esprit et de caractère, a été pourtant celui qui entrevoyait quelquefois les idées les plus élevées, les sentiments les plus équitables, et qui s'appliquait le plus sincèrement à les faire passer dans ses actes. Il entreprit d'assurer à tous les hommes libres de la Gaule chevelue les mêmes droits, les mêmes privilèges romains dont jouissaient les habitants de Lyon, entre autres celui d'entrer à Rome dans le Sénat et d'occuper les grandes charges publiques. Il en fit au Sénat la proposition formelle et parvint, non sans peine, à l'y faire adopter. Le discours qu'il prononça à cette occasion nous a été en grande partie conservé, non seulement dans le résumé qu'en a donné Tacite, mais dans une inscription gravée sur une table de bronze qui se brisa en plusieurs fragments lors de la destruction de l'édifice où elle était placée. Les deux principaux de ces fragments furent retrouvés à Lyon en 1528 et ils sont maintenant déposés dans le musée lapidaire de cette ville. Il constate l'acte politique le plus équitable, je dirais volontiers le plus libéral qui soit émané des premiers empereurs romains. Claude s'était mis en tête, dit Sénèque, de voir tous les Grecs, Gaulois, Espagnols, Bretons, revêtus de la toge. Mais en même temps, il prenait grand soin de propager partout la langue latine et de lui faire prendre la place des divers idiomes nationaux. Un citoyen romain, originaire de l'Asie mineure et député à Rome par ses compatriotes, ne put répondre en latin aux demandes de l'empereur. Claude lui retira son privilège. « On n'est pas citoyen de Rome, lui dit-il, quand on ignore la langue de Rome. » Claude ne fut ni libéral ni humain envers une portion notable de la population gauloise, les druides. Pendant son séjour en Gaule, il les proscrivit et les poursuivit sans relâche, interdisant, sous peine de mort, leur culte et tout signe extérieur de leur cérémonie. Il les repoussa et continua de les poursuivre jusque dans la Grande-Bretagne, où il fit, en l'an 45 après Jésus-Christ, une expédition militaire, à peu près la seule de son règne, sauf la lutte continuelle de ses lieutenants sur le Rhin contre les Germains. C'était évidemment dans la corporation des druides et sous l'influence des croyances et des traditions religieuses que se conservait et se défendait encore le vieil esprit gaulois, la passion de l'indépendance nationale et la haine du joug romain. Autant Claude avait été populaire dans la Gaule, autant Néron, son fils adoptif et son successeur, y devint bientôt odieux. Rien n'indique qu'il y soit jamais venu, soit pour des soins de gouvernement, soit pour obtenir l'un de ces accès de faveur momentanée que suscite toujours dans la foule la présence et l'éclat du pouvoir. C'était vers la Grèce et l'Orient que se portaient les goûts et les voyages de Néron, musicien, poète et acteur impérial. Verus, l'un des commandants militaires dans la Belgique, avait conçu le projet d'un canal pour unir la Moselle à la Saône et ainsi la Méditerranée à l'océan. Une intrigue de province et de palais en empêcha l'exécution, et au lieu de travaux publics utiles à la Gaule, Néron y fit faire un nouveau recensement de la population qu'il avait besoin de pressurer pour satisfaire à ses extravagantes fêtes. Ce fut sous son règne, vous le savez, mes enfants, qu'un violent incendie consuma une grande partie de Rome et de ses monuments. La plupart des historiens accusent Néron d'en avoir été lui-même l'auteur. Il y assista du moins avec une indifférence cynique, comme amusé d'un si grand spectacle et se plaisant à le comparer à l'incendie de Troie. Il fit plus, il en profita pour se construire librement ce magnifique palais qu'on appela le Palais d'Or, et dont il dit, quand il le vit achevé, « Je vais enfin être logé comme il convient à un homme ». 5 ans avant l'incendie de Rome, Lyon avait été la proie d'un fléau semblable, et Sénèque écrivit à son ami Lucilius « Lugdunum, qu'on montrait dans la Gaule avec admiration, se cherche et ne se trouve plus. Il n'y a eu qu'une nuit entre une ville immense et sa disparition. Elle a péri en moins de temps que je n'en mets à te le raconter. Néron fit don à Lyon de 4 millions de sesterces, environ 5 millions d'euros, pour aider à sa reconstruction, ce qui lui valut de la part de la ville une reconnaissance qui se manifesta, dit-on, quand sa chute devint imminente. Ce fut pourtant le gouverneur de la province lyonnaise, un Gaulois de Vienne, Vindex, qui se fit le promoteur de l'insurrection à laquelle Néron succomba et qui lui donna Galba pour successeur. Néron mort, il n'y avait plus de César, point de successeur naturellement désigné pour l'Empire. La puissance du nom de César s'était usée dans les crimes, les folies et l'incapacité de ses descendants. Ce fut alors que l'on commença à chercher partout des empereurs et que l'ambition de le devenir se répandit parmi les hommes considérables du monde romain. Dans les 18 mois qui suivirent la mort de Néron, 3 prétendants, Galba, Othon et Vitellius, coururent cette redoutable chance. Galba était un vieux et respectable sénateur romain qui disait avec sincérité « Si l'immense corps de l'Empire pouvait rester debout et en équilibre sans un chef, j'étais digne que la République commençât par moi. » Othon et Vitellius étaient 2 épicuriens, tous 2 indolents et corrompus, l'un élégamment, l'autre grossièrement. Galba fut porté à l'Empire par les provinces lyonnaises et narbonnaises. Vitellius par les régions cantonnées dans la province belgique, tant la Gaule tenait déjà de place dans l'Empire romain et influait sur ses destinées. Ils échouèrent et périrent tous les 3 en 18 mois. Et pour faire un empereur, on alla chercher en Orient, où il commandait, un général de petite famille italienne, Vespasien, qui s'était distingué dans sa carrière militaire et qui, proclamé d'abord à Alexandrie, en Judée et à Antioche, n'arriva à Rome que plusieurs mois après et mit sur le trône, pour 26 ans, la famille des Flaviens. Ni Vespasien, ni Titus et Domitien, ses fils, ne vinrent en Gaule comme leurs prédécesseurs. Domitien seul y fit une courte apparition. Les provinces orientales de l'Empire et les guerres sur la frontière du Danube, vers laquelle commençaient alors se porter les invasions des Germains, absorbaient la pensée des nouveaux empereurs. La Gaule fut loin cependant de rester à cette époque docile et tranquille. À la vacance de l'Empire, après Néron et au milieu des prétendants divers, l'autorité du nom romain et la pression du pouvoir impérial s'affaiblirent promptement. Les souvenirs et les désirs d'indépendance se réveillèrent. Dans la Belgique, les peuplades germaines qui avaient été admises à s'établir sur la rive gauche du Rhin étaient très imparfaitement soumises et conservaient avec les peuplades indépendantes de la rive droite des relations intimes. Les 8 légions romaines cantonnées dans cette province étaient elles-mêmes fort altérées. Beaucoup de barbares y avaient été introduits et y servaient vaillamment, mais avec indifférence et toujours prêts à changer de maître et de patrie. Ni les symptômes, ni bientôt les occasions ne manquèrent à ce nouvel état des esprits et des faits. Au centre même de la Gaule, entre la Loire et l'Allier, un paysan qui a gardé dans l'histoire son nom gaulois, Maric, forma une bande et parcourut la campagne en proclamant l'indépendance nationale. Il fut arrêté par les autorités locales et livré à Vitellius qui le fit livrer aux bêtes. Mais dans la partie septentrionale de la Belgique, vers les embouchures du Rhin, où vivait la peuplade batave, un homme considérable parmi ses compatriotes et au service des Romains, chez qui il avait reçu le nom de Claudius Civilis, prit d'abord sourdement, puis ouvertement, le parti de l'insurrection. Il avait à se venger de Néron, qui avait fait décapiter son frère, Julius Paulus, et l'avait fait mettre lui-même en prison, d'où Galba l'avait fait sortir. Il fit le vœu de ne plus couper ses cheveux qu'il ne se fût vengé. Il était borgne et s'en faisait gloire, disant qu'Annibal et Sertorius l'étaient aussi et qu'il n'aspirait qu'à leur ressembler. Il se prononça d'abord pour Vitellius contre Othon, puis pour Vespasien contre Vitellius, puis pour la complète indépendance de sa nation contre Vespasien. Il eut bientôt, parmi les Germains des 2 rives du Rhin et les Gaulois eux-mêmes, des alliés secrets ou déclarés. Un jeune Gaulois du pays de Langres, Julius Sabinus, se joignit à lui. Celui-là se vantait que, pendant la grande guerre des Gaulois, sa bisaïeule avait plu à Jules César et qu'il lui devait son nom. On venait d'apprendre en Gaule le nouvel incendie du Capitole dans les troupes de Rome à la mort de Néron. Les druides sortirent des retraites où ils se cachaient depuis la proscription de Claude et reparurent dans les villes et dans les campagnes, annonçant que l'Empire romain était fini, que l'Empire gaulois commençait et que le jour était venu où la possession des choses humaines devait passer aux nations transalpines. Les insurgés se levèrent au nom de l'Empire gaulois et Julius Sabinus prit le titre de César. La guerre s'engagea. Le trouble, l'hésitation, la désertion même pénétrèrent dans les colonies et jusque dans les légions romaines. Plusieurs villes, même Trèves et Cologne, se soumirent ou tombèrent entre les mains des insurgés. Plusieurs légions, séduites ou entraînées ou intimidées, passèrent dans leurs rangs, les unes tristement, les autres en massacrant leurs chefs. On comprit à Rome que l'insurrection était grave. Petilius Cerealis, officier renommé pour ses campagnes sur le Rhin, fut envoyé en Belgique avec 7 légions nouvelles. Il savait négocier et persuader aussi bien que combattre. La lutte fut vive, mais courte. Presque toutes les villes et les légions qui avaient failli rentrèrent sous la discipline romaine. Civilis, à demi vaincu, demanda lui-même à se soumettre. Il aurait pu, disait-on déjà alors du Batave, inonder le pays et submerger les armées romaines. Vespasien n'était pas enclin à pousser les choses et les hommes à bout. Civilis obtint l'autorisation de se retirer et d'aller vivre en paix dans les marais de sa patrie. Les chefs gaulois, les promoteurs de l'Empire gaulois, furent seuls rigoureusement poursuivis et châtiés. Il y en avait un, surtout, Julius Sabinus, le prétendant à la descendance de Jules César, qu'on avait à cœur d'atteindre. Après la ruine de ses espérances, il se réfugia dans des souterrains qui dépendaient de l'une de ses maisons de campagne. Deux affranchis dévoués en connaissaient seule l'entrée. Ils mirent le feu au bâtiment et répandirent le bruit que Sabinus était empoisonné et que son cadavre avait été la proie des flammes. Il avait pour femme une jeune Gauloise, Éponine, que ce bruit jeta dans un violent désespoir. Il la fit informer par l'un de ses affranchis du lieu de sa retraite, en lui demandant de persister dans sa désolation et son deuil pour confirmer le bruit déjà accrédité. Elle joua bien, selon l'expression de Plutarque, la tragédie de son malheur. Elle alla voir son mari la nuit dans son asile et en sortit le jour. Elle finit par n'en vouloir plus sortir. Au bout de 7 mois, entendant vanter la douceur de Vespasien, elle alla à Rome, emmenant son mari déguisé en esclave, la tête rasée et dans un accoutrement qui le rendait méconnaissable. Les amis qui étaient dans leur confidence leur conseillèrent de ne pas courir encore la chance de la clémence impériale et de regagner leur secret asile. Ils y vécurent 9 ans, pendant lesquels, ne plus ne moins que la lionne de dans sa caverne, dit Plutarque, Éponine accoucha de 2 petits jumeaux qu'elle nourrit elle-même de sa mamelle. Ils furent enfin découverts et conduits à Rome devant Vespasien. « César, lui dit Éponine en lui montrant ses enfants, je les ai conçus et allaités dans un tombeau, afin que nous fussions plusieurs à te supplier. » Mais Vespasien n'était clément que par prudence, non par nature et grandeur d'âme. Il envoya Sabinus au supplice. Éponine demanda à mourir avec son mari. « Fais-moi cette grâce, César, car j'ai vécu plus heureuse sous terre et dans les ténèbres que toi dans l'éclat de ton empire. » Vespasien accomplit son désir en l'envoyant aussi au supplice, et plus tard que leurs contemporains exprimaient sans doute le sentiment public quand il terminait son récit en disant « Il ne fut, dans tout le règne de cet empereur, nul acte si cruel ni si pitoyable à voir, et il en a été depuis puni, car toute sa postérité a été en peu de temps entièrement éteinte. Les Césars et les Flaviens eurent en effet le même sort. Les deux races commencèrent et finirent pareillement, l'une par Auguste et Néron, l'autre par Vespasien et Domitien. D'abord, un despote habile et indifférent, capable de cruauté comme de modération, puis un tyran atroce et détesté, et toutes deux s'éteignirent sans descendant. Le monde romain eut alors une bonne fortune rare. 2 ans avant d'être assassiné par quelques-uns de ses serviteurs qu'il était prêt de faire mettre à mort, Domitien s'était méfié d'un vieux et honorable sénateur, Cosseius Nerva, déjà 2 fois consul, et il l'avait exilé, d'abord à Tarente, puis en Gaule, lui préparant probablement un pire sort. Ce fut à cet honnête proscrit que s'adressèrent les conspirateurs qui venaient de se défaire de Domitien et qui avaient affaire un empereur. Nerva accepta, non sans hésitation, Il avait 64 ans. Il avait assisté à la mort violente de 6 empereurs et son grand-père, jurisconsulte célèbre et longtemps ami de Tibère, s'était tué, dit-on, désolé de l'inique et cruel gouvernement de son ami. Le court règne de Nerva fut sage, juste et humain, mais triste, non pour les peuples, mais pour lui-même. Il maintint la paix et l'ordre, rappela les exilés, repoussa les délateurs, rétablit le respect des lois et des mœurs, se refusa aux vengeances, aux spoliations, aux iniquités intéressées que lui demandaient tantôt ceux qu'il avait fait empereur, tantôt les soldats prétoriens et la populace de Rome, qui regrettaient Domitien comme ils avaient regretté Néron. Mais Nerva ne réussit à empêcher dans Rome ni les violences populaires, ni les meurtres suscités par l'avidité ou la haine. Insulté lui-même dans son pouvoir et menacé dans sa vie, il prit une résolution que je trouve exprimée et expliquée par un savant et modeste historien du siècle dernier, le nain de Tillemont, avec tant de justesse et de précision que je prends plaisir, mes enfants, à vous citer ses propres paroles. « Voyant, dit-il, que l'on méprisait sa vieillesse et que l'Empire avait besoin d'une personne qui eût autant de force et d'esprit que de corps, comme Nerva était exempt de cet aveuglement qui fait qu'on ne connaît et qu'on ne mesure point ses forces, et de cette ambition de dominer qui règne souvent sur ceux-là même qui sont le plus près de la mort, il se résolut à associer quelqu'un à la puissance souveraine et fit voir quelle était sa sagesse par le choix qu'il fit de Trajan. Par ce choix, en effet, Nerva commença et inaugura la plus belle époque de l'Empire romain, l'époque que les contemporains qualifièrent de « siècle d'or » et que l'histoire a appelé le siècle des Antonins. Je désire, mes enfants, que vous connaissiez bien le vrai caractère de cette époque à laquelle appartiennent les deux plus grands événements de l'histoire, la fin de la société ancienne et païenne et la naissance de la société chrétienne et moderne. 5 souverains éminents, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle, ont gouverné pendant ce siècle l'Empire romain de l'an 96 à l'an 180. Je viens de vous dire ce qu'était Nerva. Il ne s'était pas trompé en adoptant Trajan pour successeur. Comme Nerva, étranger par son origine à l'ancienne Rome, né en Espagne, près de Séville, Trajan avait fait, par la guerre et en Orient, ses premiers pas dans la fortune et la renommée. C'était essentiellement un militaire moral et modeste, ami de la justice et du bien public, entreprenant avec grandeur pour l'État qu'il gouvernait, simple et contenu pour son propre compte, respectueux envers l'ordre civil et ses lois, laborieux et d'intention équitable dans l'administration des provinces, sans système ni prétention philosophique, actif et hardi avec honnêteté et bon sens. Il défendit vaillamment l'Empire contre les Germains sur les rives du Danube, lui acquit la province de la Dacie et, plus occupé de l'Orient que de l'Occident, il fit en Asie des conquêtes dont son successeur Adrien s'empressa sagement, je crois, d'abandonner une partie. Adopté par Trajan et espagnol comme lui, Adrien lui était supérieur par l'esprit et très inférieur moralement. Ambitieux, vaniteux, inventif, remuant, sceptique dans sa pensée, cynique dans ses mœurs, plein de vues et de prétentions politiques, philosophiques, littéraires, il passa les 21 années de son règne à voyager dans l'Empire, en Asie, en Afrique, en Grèce, en Espagne, en Gaule, dans la Grande-Bretagne, ouvrant des routes, élevant des remparts, des monuments, fondant des écoles savantes et des musées, propageant dans les provinces comme à Rome, le mouvement législatif, administratif, intellectuel, plutôt pour son propre plaisir et sa propre gloire que dans des desseins patriotiques et sociaux. À la fin de cette active carrière, malade et se sentant près de mourir, il fit l'acte le plus vertueux de sa vie. Il avait éprouvé dans de grandes fonctions la sagesse clairvoyante et tranquille du Gaulois Titus Antonin, originaire de Nîmes. Il l'avait vu un jour arrivant au Sénat et soutenant avec respect son vieux père chancelant. Il l'adopta pour son successeur. Antonin le Pieux fut comme homme civil ce que Trajan avait été comme homme de guerre, moral et modeste, juste et économe, soigneux du bien public, doux envers les personnes, plein de respect pour les lois et les droits, attentif à justifier ses actes devant le Sénat et à en informer les populations par des édits soigneusement affichés, plus préoccupé de ne faire tort ni mal à personne que de s'illustrer par des faits brillants ou populaires. « Il surpasse tous les hommes en bonté », disaient ses contemporains, et il fit à l'Empire le plus beau des présents, il lui donna Marc Aurèle pour souverain. On a dit que Marc Aurèle fut la philosophie sur le trône. Je n'ai garde de contester ni d'atténuer cet éloge. J'y ajouterai bien plutôt en disant que Marc Aurèle fut la conscience sur le trône. C'est par son grand et original caractère qu'il gouverna l'Empire romain et se gouverna lui-même avec une constante sollicitude morale, incessamment préoccupé de réaliser l'idéal de vertu personnelle et de justice sociale qu'il avait conçu et auquel il aspirait. Sa conception de la vertu et de la justice était incomplète, fausse même dans certains cas, et il a plus d'une fois, entre autres, dans sa persécution des chrétiens, commis des actes très contraires à la loi morale qu'il voulait respecter envers tous les hommes. Mais son respect pour la loi morale était profond et sa volonté d'y conformer ses actes sérieuse et sincère. Je prendrai ça et là quelques phrases dans ce recueil de ses pensées intimes qu'il a intitulé « À moi-même » et qui est en effet le plus scrupuleux portrait qu'un homme ait laissé de lui-même et de son travail sur lui-même. « Il y a, dit-il, une parenté entre tous les êtres doués de raison. Le monde est comme une cité supérieure au sein de laquelle les autres cités ne sont que des familles. J'avais conçu l'idée d'un gouvernement fondé sur des lois générales et égales. Prends garde de ne te point césariser, car c'est ce qui n'arrive que trop. Conserve-toi simple, bon, inaltéré, digne, sérieux, ami de la justice, pieux, bienveillant, courageux pour tous les devoirs. Respecte les dieux, sauve les hommes. La vie est courte, il n'y a qu'un fruit possible de notre existence terrestre, l'intention sainte et des actions utiles au bien commun. Mon âme, couvre-toi de honte, ta vie est presque passée et tu n'as pas encore appris à bien vivre. Parmi les hommes qui ont régné dans un grand état, je ne connais que Marc Aurèle et Saint-Louis qui se soient ainsi passionnément inquiétés de l'état moral de leur âme et de la conduite morale de leur vie. L'esprit de Marc Aurèle était supérieur à celui de Saint-Louis, mais Saint-Louis était chrétien, et son idéal moral était plus pur, plus complet, plus satisfaisant et plus fortifiant pour l'âme que l'idéal philosophique de Marc Aurèle. Aussi Saint-Louis était-il serein et confiant dans son sort et dans celui du genre humain, tandis que Marc Aurèle restait inquiet et triste, triste pour lui-même, et aussi pour l'humanité en général, pour son pays et pour son temps. « Ô mon âme, s'écriait-il, pourquoi te troubles-tu et pourquoi suis-je ainsi tourmenté ?» Nous touchons ici, mes enfants, au fait que je vous ai déjà fait pressentir et qui caractérise l'état moral et social du monde romain à cette époque. On se tromperait grandement si l'on prenait les 5 empereurs dont je viens de vous parler, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle, pour les représentants de la société au milieu de laquelle ils vivaient et comme donnant à un certain degré la mesure de ses lumières et de sa moralité, de sa prospérité, de sa disposition et de sa condition générale. Ces 5 princes n'étaient pas seulement des hommes d'élite, supérieurs par l'esprit et le caractère à la plupart de leurs contemporains. Ils étaient des hommes presque isolés dans leur temps. À eux se résumait ce que l'Antiquité grecque et romaine avait acquis de lumière et de vertu, de sagesse pratique et de moralité philosophique. Ils étaient les héritiers et les survivants des grands esprits et des grands politiques d'Athènes et de Rome, de l'Aréopage et du Sénat. Ils n'étaient point en harmonie intellectuelle et morale avec la société qu'ils gouvernaient, et leur action sur elle ne servait guère qu'à la préserver partiellement et momentanément des maux auxquels la livraient ses propres vices et à ralentir sa décadence. Quand ils étaient réfléchis et modestes comme Marc Aurèle, ils étaient tristes et enclins au découragement car ils avaient un secret sentiment de la vanité de leurs efforts. Leur tristesse ne les trompait pas. Malgré leurs honnêtes desseins et de brillantes apparences, la dégradation matérielle aussi bien que morale de la société romaine allait toujours croissant. les guerres, le luxe, les dilapidations et les désordres de l'Empire élevaient toujours ses dépenses fort au-dessus de ses revenus. La rude avarice de Vespasien et la sage économie d'Antonin le Pieux étaient loin de suffire à rétablir le niveau. L'aggravation des impôts était continuelle. La population, surtout la population agricole, diminuait de plus en plus, en Italie même, au centre de l'État. Ce mal inquiétait les empereurs quand ils n'étaient pas des fous aveugles ou forcenés. Claude, Vespasien, Nerva, Trajan s'appliquèrent à y porter remède. Auguste lui-même leur en avait déjà donné l'exemple. Ils établissaient en Italie des colonies de vétérans auxquelles ils assignaient des terres. Ils en donnaient aux citoyens romains indigents. Ils attiraient par le titre de sénateur les citoyens riches des provinces. Et quand ils les avaient installés en Italie comme propriétaires, il ne leur permettait plus d'en sortir sans autorisation. Trajan ordonna que tout candidat aux magistratures romaines fût tenu de constituer en terres italiques le tiers de sa fortune, afin, dit Pline le Jeune, que ceux qui recherchaient les honneurs publics regardassent Rome et l'Italie non comme une auberge où l'on s'arrête en voyageant, mais comme leur patrie. Et Pline l'Ancien, remontant un observateur philosophe à la source du mal, dit dans son style solennel: autrefois, les généraux cultivaient leurs champs de leurs propres mains. La terre, il est permis de le croire, s'ouvrait avec complaisance sous une charrue couronnée de lauriers et conduite par des mains triomphantes, soit que ces grands hommes donnassent à la culture le même soin qu'à la guerre et qu'ils ensemençassent la terre avec la même intention qu'ils disposaient un camp, soit aussi que tout fructifie mieux sous des mains honnêtes parce que tout se fait avec une exactitude plus scrupuleuse. Aujourd'hui, ces mêmes champs sont livrés à des esclaves enchaînés, à des malfaiteurs condamnés au travail et dont le front est flétri. La terre n'est pas sourde à nos vœux, nous lui donnons le nom de mère, nous appelons culte les soins qui lui sont rendus. Mais pouvons-nous être surpris qu'elle ne paye pas des esclaves comme elle récompensait des généraux ? Quelle ne devait pas être la décadence de la population et de l'agriculture dans les provinces quand il fallait, pour les défendre en Italie même, de tels efforts qui réussissaient si peu. Pline avait reconnu la plaie fatale de l'Empire romain dans les campagnes comme dans les villes, l'esclavage ou le demi-esclavage. La propriété foncière était surchargée d'impôts, assujettie à des conditions qui la frappaient d'une sorte de servitude et cultivée par une population servile aux mains de qui elle devenait presque stérile. Les grands propriétaires étaient ainsi dégoûtés, et les petits propriétaires ruinés ou réduits à une condition de plus en plus abaissée. Ajoutez à ce régime, dans l'ordre civil, l'absence complète de liberté et de vie dans l'ordre politique. Point d'élection, point de discussion, point de responsabilité publique. Les caractères énervés par l'oisiveté et le silence, ou brisés par le pouvoir absolu, ou corrompus par les intrigues de palais ou d'armée. Faites un pas de plus. Portez vos regards sur l'ordre moral. Point de croyance religieuse. Il ne restait du paganisme que des fêtes ou des superstitions frivoles ou honteuses. La philosophie grecque et l'ancienne vie romaine avaient suscité dans les rangs élevés de la société des stoïciens et des jurisconsultes, les uns derniers défenseurs de la morale et de la dignité humaine, les autres derniers serviteurs éclairés de la société civile. Mais ni les doctrines des stoïciens, ni la science et l'habileté logique des jurisconsultes n'étaient des flambeaux et des guides à la portée et à l'usage des populations. Elles restaient livrées aux vices et aux misères de la servitude ou des troubles publics, et ballottées entre les stériles ennuis de l'ignorance et les corruptions de la vie d'aventure. Toutes les causes de décadence se déployaient à cette époque dans la société romaine. Aucun des principes conservateurs ou régénérateurs de la vie nationale n'y était en force et en crédit. Après la mort de Marc Aurèle, la décadence éclata et se développa presque sans interruption pendant un siècle, dans un fait visible et palpable, la désorganisation et les chutes répétées du gouvernement lui-même. À la série des empereurs donnés au monde romain, depuis Auguste jusqu'à Marc Aurèle, par l'hérédité ou par l'adoption, succéda ce que j'appellerai l'anarchie impériale. Dans le cours de 132 ans, 39 souverains passèrent sur le trône avec le titre d'empereur, Auguste, et 31 prétendants que l'histoire a appelés des tyrans en approchèrent, sans autre cause que les ardeurs de l'ambition et les hasards de la force, soutenus tantôt dans telle ou telle province de l'Empire, par quelque légion ou quelque soulèvement local, tantôt et le plus souvent en Italie même, par les gardes prétoriennes qui disposaient du nom de Rome et de l'ombre du Sénat. Il y eut des empereurs italiens, africains, espagnols, gaulois, bretons, illyriens, asiatiques, et dans le nombre il se rencontra quelques hommes d'un mérite éminent dans la guerre ou dans la politique, quelques-uns même d'une vertu rare et patriotique, Pertinax, Septime Sévère, Alexandre Sévère, Dèce, Claude le Gothique, Aurélien, Tacite, Probus. Ils s'efforcèrent les uns de défendre l'Empire contre les barbares, de jour en jour plus agressifs, les autres de rétablir au-dedans quelque ordre et de rendre aux lois quelque force. Ils échouèrent tous, et périrent presque tous violemment, gardiens passagers d'un édifice qui s'écroulait de toutes parts, toujours sous le grand nom d'Empire romain. La Gaule eut sa part dans cette série d'empereurs et de tyrans éphémères. L'un des plus méchants et des plus fous, quoique issu de l'un des plus vaillants et des plus capables, Caracalla, fils de Septime Sévère, était né à Lyon, 4 ans après la mort de Marc Aurèle. 100 ans plus tard, Narbonne donna pour 2 ans au monde romain 3 empereurs, Carus et ses 2 fils, Carin et Numérien. Parmi les 31 tyrans qui ne s'élevèrent pas jusqu'au rang d'Auguste, 6 étaient Gaulois, et les 2 derniers, Amandus et Elianus, furent, en l'an 285, les chefs de cette grande insurrection de paysans, esclaves ou colons demi-esclaves, qui, sous le nom de Bagaudes, se répandirent dans le nord de la Gaule, entre le Rhin et la Loire, pillant et dévastant partout, après avoir subi eux-mêmes les pillages et les dévastations des agents fiscaux et des soldats de l'Empire. Un témoin contemporain, Lactance, décrit ainsi les causes de ce soulèvement populaire. Telle était devenue l'énormité des impôts que les forces manquaient aux laboureurs, les champs devenaient déserts et les cultures se changeaient en forêts. Les agents du fisc mesuraient les champs par mode de terre. On comptait les arbres, les pieds de vigne, on inscrivait les bêtes, on enregistrait les hommes. Point d'excuse pour la vieillesse ou la maladie, on apportait les malades, les infirmes, on estimait l'âge de chacun, on ajoutait des années aux enfants, on annotait aux vieillards. Cependant, les animaux diminuaient, les hommes mouraient et l'on n'en payait pas moins pour les morts. On dit que pour échauffer la confiance et le zèle de leur bande, les 2 chefs des Bagaudes firent frapper des médailles et que l'une présente la tête d'Amandus, empereur, César, Auguste, pieux et heureux, avec ce mot au revers, espérance. Quand les mots publics sont arrivés à un tel excès, et que cependant le jour de l'entière disparition du régime qui les cause n'est pas encore venu, il surgit presque toujours un pouvoir nouveau qui, au nom de la nécessité, porte quelques remèdes à un état intolérable. Ainsi il arriva dans l'Empire romain, peu avant la fin du 3e siècle de l'ère chrétienne. Une légion cantonnée à Tongres, en Belgique, comptait dans ses rangs un dalmate nommé Dioclétien, encore peu avancé en grade, mais déjà très estimé de ses compagnons pour son intelligence et sa bravoure. Il logeait chez une femme druidesse, dit-on, et en possession de prophétiser. Comme il réglait un jour avec elle son compte, elle se plaignit de son excessive économie. « Tu es trop avare, Dioclétien, lui dit-elle. » Il lui répondit en riant, « Je serai prodigue quand je serai empereur. »« Ne ris pas, reprit-elle, tu seras empereur quand tu auras tué un sanglier, en latin aper. » Le propos courut parmi les compagnons d'armes de Dioclétien. Il fit son chemin dans l'armée, toujours habilement et vaillamment, et plusieurs fois dans ses diverses garnisons et ses fréquentes chasses, il eut occasion de tuer des sangliers. Il n'en devint pas aussitôt empereur, et plusieurs de ses contemporains, Aurélien, Tacite, Probus, Carus, Numérien, firent fortune avant lui. « Je tue les sangliers, » disait-il à ses amis. « Un autre les mange. » Le dernier de ses empereurs éphémères, Numérien, avait pour beau-père et pour compagnon assidu un prêtre du prétoire nommé Arius Aper. Dans une campagne en Mésopotamie, Numérien fut assassiné. La voix de l'armée en accusait Aper. Les légions se réunirent pour délibérer sur la mort de Numérien et lui choisir un successeur. Aper fut amené devant la réunion et gardé par des soldats. préparée par de zélés amis, la candidature de Dioclétien trouva grande faveur. Au premier mot qu'il prononça d'une tribune élevée devant les troupes, des cris « Dioclétien, Auguste !» s'élevèrent de toutes parts. D'autres voix le sommèrent de s'expliquer sur les meurtriers de Numérien. Dioclétien tira son épée, attesta sous serment qu'il était innocent de la mort de l'empereur, mais qu'il connaissait le coupable et saurait le punir. Descendant soudain de la tribune, il marcha sur le préfet du prétoire et lui disant « Aper, console-toi, tu ne mourras pas d'une main vulgaire. Aenae magni dextra cadis » et il le frappa à mort. « J'ai tué le sanglier fatal, » dit-il le soir à ses confidents, et peu après, malgré les efforts de quelques rivaux, il était empereur. Rien n'est plus difficile que de gouverner, lui avait souvent entendu dire ses compagnons d'armes au milieu de tant de chutes impériales. Empereur à son tour, Dioclétien garda ce profond sentiment de la difficulté du gouvernement et il entreprit, sinon heureusement, du moins habilement, de la surmonter. Convaincu que l'empire était trop vaste et qu'un seul homme ne pouvait suffire pour combattre les deux fléaux qui le détruisaient, sur les frontières, la guerre contre les barbares, au-dedans, l'anarchie, il divisa le monde romain en deux parts, donna l'Occident à l'un de ses compagnons, Maximien, soldat grossier mais vaillant, et il se réserva l'Orient. À l'anarchie intérieure, il opposa une générale et despotique organisation administrative, une vaste hiérarchie d'agents civils et militaires, partout présents, partout les maîtres et dépendants de l'empereur seul. Par sa supériorité incontestable et acceptée, Dioclétien restait l'âme de ces deux corps. Au bout de 8 ans, il reconnut que les deux empires étaient encore trop vastes, et aux deux Augustes, il ajouta 2 Césars. Galère et Constance Chlore, qui, sauf une subordination plus nominale que réelle envers les deux empereurs, eurent chacun dans son état le pouvoir impérial avec le même régime administratif. Dans ce partage du monde romain, la Gaule eut la bonne part. Elle eut pour maître Constance Chlore, naguère gouverneur de Dalmatie, guerrier éprouvé, mais juste, doux et enclin à porter dans l'exercice du pouvoir absolu, beaucoup de modération et d'équité. Il avait un fils, Constantin, âgé à cette époque de 18 ans, et qu'il élevait avec soin pour le gouvernement autant que pour la guerre. Ce régime du monde romain, ainsi divisé en 4 maîtres, dura 13 ans, encore plein de guerres et d'agitations intérieures, mais sans victoire et avec un peu moins d'anarchie. Malgré cette apparence de succès et de durée, le pouvoir absolu ne suffisait point à sa tâche. Las de son fardeau et dégoûté de l'imperfection de son œuvre, Dioclétien abdiqua l'an 305 après Jésus-Christ. Et aucun événement, aucune sollicitation de ses anciens compagnons de l'Empire ne parvinrent à le faire sortir de sa retraite dans son pays natal de Salone en Dalmatie. « Si vous pouviez voir les légumes cultivés de mes mains, » dit-il à Maximien et à Galère, « vous ne feriez pas une telle tentative. » Il avait décidé, ou plutôt entraîné, son premier collègue, Maximien, à abdiquer comme lui. Galère, en Orient, et Constance Chlore, en Occident, étaient restés seuls empereurs. Après la retraite de Dioclétien, les ambitions, les rivalités, les intrigues ne tardèrent pas à éclater. Maximien reparut sur la scène impériale pour en disparaître bientôt, en 310, y laissant à sa place son fils Maxence. Constance Chlore était mort en 306, et son fils Constantin avait été aussitôt proclamé César et Auguste par son armée. Galère mourut en 311, et Constantin resta aux prises, en Occident avec Maxence, en Orient avec Maximin Licinus, dernier collègue que Dioclétien et Galère s'étaient donné. Le 29 octobre 312, après avoir gagné contre Maxence plusieurs batailles en Italie, à Milan, à Brescia, à Vérone, Constantin le poursuivit et le battit devant Rome, sur les bords du Tibre, à l'entrée du pont Milvius. Et le fils de Maximien, noyé dans le Tibre, laissa au fils de Constance Chlore l'Empire d'Occident, auquel l'Empire d'Orient devait s'ajouter peu d'années après, par la défaite et la mort de Licinius. Plus clairvoyant et plus heureux qu'aucun de ses prédécesseurs, Constantin avait compris son temps et ouvert les yeux à la nouvelle lumière qui se levait sur le monde. Loin de persécuter les chrétiens, comme le faisaient Dioclétien et Galère, il les avait protégés, accueillis, écoutés. Vers lui se tournaient toutes leurs espérances. Il avait même, dit-on, dans sa dernière bataille contre Maxence, déployé le drapeau chrétien, la croix, avec cette inscription « Hoc signo vinces ». Je ne sais quel était vraiment alors l'état de son âme et jusqu'à quel point y avaient pénétré les premières lueurs de la foi chrétienne. Ce qui est certain, c'est qu'il fut parmi les maîtres du monde romain le premier à en sentir et à en accepter la puissance. Avec lui, le paganisme tomba du trône et le christianisme y monta. À lui s'arrête la décadence de la société romaine et s'ouvre l'ère de la société moderne.